Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Comment faire l'annonce d'une maladie grave à son adolescent quand un des parents tombe gravement malade? C'est la question du jour dans cette émission des clés pour grandir, un rendez-vous qui s'adresse à tous les parents qui ont des adolescents encore à la maison. Mon intervenante aujourd'hui et pour les semaines qui vont suivre est une thérapeute, Valérie Dex, qui exerce depuis 1997. Bonjour Valérie Dex.
Bonjour.
Vous avez deux cabinets,
oui.
Un sur Toulouse et un sur Pamiers.
Tout à fait.
Et plus de 20 ans d'exercice.
Oui, plus de 20 ans avec des adolescents, des enfants et des adultes en cabinet.
Alors, cette question du jour, c'est face à la maladie, parfois la maladie grave d'un des parents. Et quand on a des adolescents à la maison, comment s'y prendre pour ne serait-ce que annoncer à ses enfants, à une fratrie?
Tout d'abord, je pense que l'adolescent, c'est quelqu'un d'oublié. Hein, quand il y a une maladie grave, quand il y a une mort dans une famille, souvent, on pense que l'adolescent va passer la situation comme ça, d'une certaine manière, à sa manière. Mais il faut lui annoncer, effectivement, il faut lui accorder du temps. Surtout qu'il est dans une période de désorganisation psychique, hein, où il va se réorganiser aussi psychiquement. Donc il est dans une période de vulnérabilité. Donc c'est l'adolescent va ressentir d'autant plus, je pense, les étapes de l'annonce et du deuil aussi, d'une certaine manière, beaucoup plus exacerbées qu'un adulte.
Alors comment s'y prendre ?
Alors comment s'y prendre? Je pense que c'est déjà le prendre à part et le considérer comme quelqu'un qui est capable de comprendre et d'accepter, voilà, et de lui parler sérieusement et de dire la réalité en fait, des faits.
C'est-à-dire rien cacher?
Ne rien cacher,
annoncer la vérité.
Annoncer la vérité telle qu'elle est. C'est vrai que va suivre à partir de là un déni, certainement, ou un choc, hein, un choc à la réalité, comme tout le monde. Hein, tout le monde vit cette période d'annonce comme un choc et peut-être même un déni de la situation. Mais c'est quelque chose qui va peut-être perdurer pendant un certain temps, mais qui va aussi se liquider parce qu'on va pouvoir parler avec son adolescent en réalité, comme on annonce à un adulte. Hein.
Alors, qui doit faire l'annonce? Le parent malade lui-même, qui lui-même est peut-être encore en état de choc par l'annonce de l'éruption d'une maladie grave?
Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui puisse pouvoir écouter, hein, pouvoir accepter les émotions de cet adolescent qui vont être exacerbées. Souvent, peut-être qui vont être aussi le repli sur soi, l'hermétisme. Je pense que la plupart du temps, les réactions de l'adolescent, c'est l'hermétisme en fait. Hein. Et c'est ça qui est dangereux en termes de choc et de déni, c'est cette question de se replier sur soi complètement.
Alors comment les parents doivent-ils réagir? Très vite?
Très vite, je crois que c'est accepter qu'il exprime ses émotions. Et qu'il exprime aussi ses émotions aux parents qui est malade.
Alors si les deux parents sont fragilisés eux-mêmes, renvoyés à des proches, à des professionnels,
qu'est-ce que vous pouvez conseiller
pour des
amis,
parents qui vous écoutent aujourd'hui dans cette émission et ce rendez-vous?
Je crois qu'il y a la famille élargie aussi, il y a des oncles, des tantes, des amis,
des
grands-parents. On peut vraiment conseiller aux grands-parents, aux tantes, aux oncles de prendre ce rôle en second pour vraiment accueillir cet adolescent qui est submergé par ses émotions.
Alors c'est toute une famille qui peut être aussi
c'est
submergée.
Toute une famille
c'est l'adolescent, c'est le parent malade, c'est le conjoint aussi.
Oui. Ça peut être, voilà, c'est le conjoint, tout à fait. Ça peut être un professionnel qui peut aider l'adolescent aussi, mais je pense qu'on est capable, en tant que famille, d'absorber un peu le choc de cette réalité.
Vous avez un exemple précis que vous auriez peut-être accompagné?
Oui, moi j'ai accompagné un adolescent dont sa mère avait une surplus de fer dans le sang, hein, qui était dangereux, voire létal, en fait, et qui est venu me consulter. Et on a pu parler ensemble, mais grâce à le fait de pouvoir parler et de pouvoir absorber un peu ce choc, ce traumatisme, en fait, de l'annonce. Il a pu en parler aussi à ses amis aux alentours. Ça fait un soutien primordial, en fait, pour lui. Voilà, et il a pu élargir un peu son champ social, et ça, c'est important, je trouve.
Alors, ce sont toutes les étapes. On parle souvent de ces étapes de déni, de colère, de marchandage, de dépression, d'acceptation. Mmh. Est-ce que toutes les étapes sont traversées dès le moment d'une annonce telle qu'une maladie grave qui fait éruption dans
je
une famille?
Je pense que chez l'adolescent, beaucoup, enfin, ce qui est le plus, je trouve, fréquent, c'est la colère et la révolte. Hein. Colère, révolte.
Chez l'adolescent.
Chez l'adolescent. Et comme je disais aussi, l'hermétisme, hein, le repli sur soi, il peut y avoir... Ça, c'est beaucoup plus curieux et c'est beaucoup plus inquiétant, en fait, que la colère et la révolte. La colère et la révolte, c'est déjà un mouvement vers la vie. C'est dire sa douleur, c'est dire son impossibilité d'y croire.
C'est exprimé, c'est verbalisé, voilà. C'est oui. Dit, c'est dans la vie.
Voilà,
alors que l'hermétisme, c'est on se recroqueville.
On se recroqueville sur soi, et là, c'est quand même aller vers quelque chose de plus pathologique. Voilà.
Hein. De quel type?
On parle de deuil pathologique, on parle, oui, c'est une entrée dans quelque chose comme ça, de pré-deuil pathologique, dès le début de l'annonce, en fait.
Alors comment aller chercher cet ado?
Alors aller le chercher, là, quand on parle d'hermétisme, c'est intéressant d'être appuyé par des professionnels, aller le chercher avec ses centres d'intérêt, l'intéresser à la vie de la personne malade, en fait, qui n'est pas morte, hein, rappelons-le bien, elle est bien vivante, elle vit des temps de souffrance, mais elle n'est pas morte, donc elle est la faire vivre par où elle peut vivre, et l'adolescent aussi, quelque part, aussi pour pouvoir l'aider à rentrer en contact avec cette personne, pour qu'il puisse exprimer des choses, ses émotions.
Donc, inviter, des parents peut-être vivent une situation actuelle au sein même de la famille d'une maladie grave, vous invitez donc l'adolescent, le parent à informer son adolescent sur le suivi de la maladie, sur le traitement, la réaction aussi du parent malade, père ou mère.
Moi, je trouve qu'il ne faut rien cacher. Françoise Zolto le disait, elle ne cachait rien non plus aux nourrissons. Hein, elle leur disait la vérité, ce qui était...
Oui, oui.
Parce que justement, on a un sentiment d'empathie. Donc de toute manière, l'adolescent, même si vous ne lui dites rien ou peu, il va ressentir des choses. Il va en faire une montagne peut-être aussi, hein, justement. Hein, il va essayer de faire, d'élaborer quelque chose par lui-même, juste en ressentant de façon empathique, puisqu'on est des êtres ouverts, on n'est pas des êtres fermés. Donc, toutes les émotions vont être ressenties, perçues, commentées, élaborées. Et c'est bien dommage de ne pas dire la vérité quand on peut désarticuler un fantasme, justement, hein, parce qu'il peut fantasmer aussi sur la maladie, sur la mort, et ne plus s'en sortir, en fait. Donc je crois que être plus proche de la réalité du dire, je crois que c'est la solution, même si c'est dur à entendre, même si c'est choquant au début. Il vaut mieux choquer au départ, et après pouvoir élaborer ensemble.
Même si l'individu est déjà en état de choc.
C'est-à-dire en état
de... Un état de choc par l'annonce de l'éruption d'une maladie grave. Qui dit maladie grave,
oui,
dit lourd traitement aussi,
oui,
et peut dire finalité.
Mais après, l'état de choc, c'est un état de choc, il y a un état de sidération, il y a un état de stupeur. Mais après, il y a un état où on peut parler, on peut élaborer ensemble, on peut vivre des émotions, vivre des relations. Je crois que c'est super important d'essayer de soigner la relation, de faire vivre la relation. Pour moi, à travers ce qu'on peut échanger avec son adolescent. En fait.
Donc pour soigner cette relation dont vous parlez, c'est soigner cette relation, mais dans la vérité au fond.
Soigner dans cette relation, dans la vérité, dans la réalité. Je crois que c'est ne rien cacher, non. Non, je crois que c'est ne rien cacher. C'est dur à dire, mais je pense que... Et c'est dur à faire aussi, mais je pense que pourtant, c'est la solution pour passer à un autre niveau, alors, pour permettre à la personne à passer à un autre niveau de relation.
Très concrètement, tes parents vous écoutent dans ce rendez-vous des clés pour grandir. Cette situation se présente devant eux et ils se sentent bien incapables, bien démunis pour poser peut-être sur ce plan de travail cette vérité-là.
Je pense que c'est important d'utiliser un tiers. Est-ce qu'on peut pas utiliser un tiers, un médecin, effectivement, qui annonce aussi, qui parle à l'adolescent, ça peut être un tiers professionnel. Voilà, ça peut être un psychologue, effectivement, un thérapeute, qui annonce aussi à l'aide du parent, ça aide à faire un petit peu un coussin sur lequel on peut s'appuyer. Je trouve que c'est important.
Mais au fond, verbaliser permet aussi de libérer quelque part cette douleur aussi de l'annonce que réceptionne l'adolescent.
Oui. Oui. Verbaliser, c'est très important parce que ça permet, bon voilà, oui, il y a le choc, mais après il y a la douleur, il y a la révolte et entendre cette verbalisation jusqu'au bout. Ce qui va être difficile à accueillir. Mais ça, on peut aussi être aidé par un professionnel aussi. Mais des amis, la famille élargie...
Puis les amis proches, l'ado qui...
Les amis proches qui vont aussi servir à ça. Aussi, hein. Qui sont réseau d'amis, de pères, qui vont aussi servir à ça. Et souvent, les ados, ils parlent de leur vie familiale, effectivement, et des problèmes et des situations de maladie qu'ils ont pu avoir au niveau de leurs parents, grands-parents, etc. On entend ça dans le discours des ados.
Jusqu'à l'acceptation, au fond, après la colère, après la dépression que vous décrivez, le déni, l'acceptation arrive à la finalité.
L'acceptation arrive dans le sens où il y a une réorganisation effectivement de soi et il y a une remise en question de la relation qui était avant ce qu'elle était avec le parent. Et là, elle va aller peut-être, si la vérité est dite et si on a accepté les émotions de ces ados, vers une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus soignée, justement. Et je trouve que ça permet au moins ce niveau-là.
Au fond, ça permet d'aller plus loin peut-être dans la relation entre parents et l'adolescent lui-même.
Voilà, tout à fait.
Approfondir la relation dans la vérité, au fond.
Tout à fait. Tout à fait.
Valérie Dex, l'invité dans ce rendez-vous des clés pour vivre, je vous propose de poursuivre dès la semaine prochaine et des quelques semaines à venir autour de ces épreuves de la vie qui peuvent se présenter un jour dans n'importe quelle famille. Je rappelle que cette émission est en podcast et qu'on peut retrouver toutes vos coordonnées sur ce podcast du jour. Merci et à bientôt.
Merci.